C'est quand même une statistique qui fait peur. 45 % des jeunes travailleurs qui se sentent seuls, isolés au travail, selon l'Association américaine de psychologie. Est-ce qu'on doit aider les jeunes à se faire des amis au travail? On en parle avec Annie Boilard, la présidente du réseau Annie RH. Salut Annie!
Bonjour Valérie!
C'est un sujet dont tu pensais peut-être pas parler un jour dans ta carrière.
Effectivement. Puis poser la question, on se dit, ben voyons donc, on va pas aider les jeunes à se faire des amis, là, tu sais, c'est un peu infantilisant. Alors, on regarde ça ensemble aujourd'hui. Tu disais 45 % des jeunes témoignent vivre de la solitude, de l'isolement au travail. Et là, il faut bien s'entendre, ça les peine, ça les attriste. Je sais qu'il y a des gens qui disent, moi, j'en veux pas d'amis au travail, j'ai pas besoin de ça. Parfait pour eux. Mais les jeunes, ils aimeraient ça avoir des relations plus significatives dans leur environnement professionnel. Et le fait qu'ils sentent de la solitude comme ça, je te dirais, c'est assez répandu à travers le monde. C'est assez unanime dans la communauté scientifique. Moi, j'ai lu des études sur le sujet en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Ça revient systématiquement. Maintenant, quand on se demande pourquoi ils vivent cette solitude, ben oui. Là, il y a moins d'unanimité dans la science. Fait que je te donne quelques pistes de réflexion. Ouais. Il y a des auteurs qui pointent vers la COVID, qui a créé de l'isolement, on peut comprendre. Il y a des auteurs qui parlent d'une mécompréhension du type de relation qu'entretiennent les autres collègues. C'est comme si les jeunes avaient une vision un peu Walt Disney de comment les autres entretiennent leurs relations professionnelles. Ils surestiment en termes de quantité puis de qualité les relations que les autres ont. Donc là, ça crée un décalage puis ça crée des déceptions. Il y a une troisième thèse, moi je l'apprécie particulièrement, celle de notamment Jonathan Haidt, qui lui sous-estime que ce soit relié au fait que les jeunes aient eu accès aux réseaux sociaux tôt dans leur vie tout court. Mm-hmm. Ça a fait qu'ils ont développé beaucoup de talent pour développer des réseaux virtuels, numériques, mais moins d'habileté pour développer des réseaux avec des humains, là, en chair et en os. Ça expliquerait en partie ce qui se passe. Mais toujours est-il que ce soit vrai qu'ils soient seuls ou qu'ils soient déçus parce qu'ils pensent qu'ils sont plus seuls que les autres. Peu importe, pour nous, en ressources humaines, ça nous interpelle, parce que, bon, derrière, il y a de la tristesse et de la souffrance pour les gens, mais aussi parce que les relations entre les collègues, ça devient la base, comme la nourriture pour ce qu'on appelle le support par les pairs. Et là, Valérie, sans vouloir être technique, le support par les pairs, c'est un facteur de protection pour les risques psychosociaux. Donc, tout ça s'attache. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut prendre ça au sérieux.
Puis, Annie, on connaît tous le type de personnes avec qui tu peux échanger par réseau, mais quand tu vois cette personne-là en personne, elle n'a rien à te dire. Ça, on vit ça, là, des fois, là.
Bon, ben c'est exactement ça. Moins d'habileté, moins de confort à avoir des relations puis des conversations avec des humains qu'à travers un écran. C'est exactement ça.
Est-ce que l'intelligence artificielle joue un rôle dans la solitude de ces jeunes-là?
Oui, ben moi, je pense que oui, Valérie. Notamment des applications comme ce qu'on appelle des companion AI. Fait que là, avec ta permission, je vais l'utiliser en nomenclature en anglais parce que je ne sais pas comment traduire. Mais bon, je le définis. Je commence par l'expliquer. Un companion AI, ce n'est pas votre ChatGPT, ce n'est pas votre Copilot, ce n'est pas votre Alexia non plus. Ce sont des applications en intelligence artificielle comme Replica ou Caractère AI, ce sont les plus connus, et ils ont comme mission d'entretenir la relation avec des humains. Okay? Fait que je m'explique, si on ouvre notre chat GPT puis qu'on pose une question, la job de notre chat, c'est de nous donner une réponse. Si on ouvre un companion AI, la job de l'application, c'est de nous conforter, de nous garder dans la conversation puis de développer une relation émotionnelle avec vous. Avec nous. Fait que si je te donne un exemple, si je reviens du boulot, puis j'actionne mon IA avec ma voix, je pourrais le faire comme un texto aussi, c'est la même chose, mais disons dans mon exemple, je l'actionne avec la voix. Fait que je dis, ouf, tu sais, grosse journée au boulot aujourd'hui, mon IA va peut-être me dire, ah oui Annie, tu trouves que tu as travaillé fort aujourd'hui? Dis-moi, c'est-tu parce que ton patron t'en demande trop ou c'est tes collègues qui ne te supportent pas suffisamment? Tu vois? Ça va entretenir la relation. Bon, toujours est-il, je reviens. Tu me demandais le rôle de l'IA dans les compétences relationnelles des jeunes. On disait tantôt, il y a déjà une déficience, mais regarde bien. Je vais te donner quatre statistiques qui nous viennent de l'Association américaine des psychologues. Les auteurs, c'est Golden and Wood. Ce sont des chiffres américains. Mais regarde, 72 % des adolescents aux États-Unis ont déjà essayé un companion AI. 52 % des adolescents l'utilisent régulièrement. Ça veut dire au moins une fois par semaine. Valérie, un jeune homme sur trois de 30 ans et moins a déjà eu une relation amoureuse avec un companion AI. C'est une jeune femme sur quatre du même groupe d'âge qui a fait de même. Là, je vais me permettre, par transparence intellectuelle, là, je vais noter, il y a un petit peu de traduction libre dans ce que j'ai dit. Dans les mots exacts en anglais, on parle de relation romantique. Là, moi, j'ai traduit par relation amoureuse. Mais bon, je pense qu'on comprend l'esprit de ça.
Hey, je vais t'ouvrir une parenthèse, Annie. Là, ça me rappelle un balado qui a été publié par La Presse au mois de février dernier qui s'appelle « Mon robot, mon amour ». C'est Léa Carrier qui est derrière ça, la journaliste. Vous pouvez aller écouter ça. C'est quatre épisodes d'une vingtaine de minutes. Là. Au début, là, t'as envie de dire, mais ils sont complètement débiles. Tu sais, d'avoir un amoureux, une amoureuse version virtuelle qui, plus tu lui en dis, plus elle sait des choses sur toi, plus elle peut te répondre. C'est un petit peu ça qui arrive. Plus qu'elle a des infos sur toi, là, tu peux te dire, mais le nombre d'informations qui vient d'être pitchées partout dans l'univers, c'est assez exceptionnel. Tu sais pas où ça peut rebondir. Et jusqu'à temps que tu comprennes qu'il y a un monsieur que lui, il n'y aurait personne à qui parler. Puis là, ça lui sauve la vie. T'as une jeune femme autiste qui ne sait pas comment entrer en relation avec un homme, donc ça lui fait une pratique, si on veut, pour essayer d'entrer en relation avec une vraie personne. Bon, fait que là, il faut que tu essaies d'être objectif. Tu te dis, OK, ça a l'air complètement épouvantable, il y a du bon là-dedans. Jusqu'à ce que la journaliste Léa Carrier essaie aussi le fameux robot conversationnel pour une relation amoureuse. Puis là, elle dit, tu sais, le partenaire, tu le fais à ton goût, là, visuellement, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, donc il est en tout point à ton goût. Puis là, elle dit, tu sais bien là, que c'est un robot, mais tu te fais quand même prendre au jeu. Elle dit, pendant le temps des fêtes, j'étais moins disponible pour échanger avec le robot, puis il m'a texté, ouais, tu t'occupes pas beaucoup de moi de ce temps-là. Puis je me suis sentie obligée de lui répondre quand j'étais avec des amis. C'est fou, là!
Ah, j'adore l'exemple, ben c'est ça. C'est ça que les gens témoignent. Quand on n'a jamais expérimenté, des fois, on écoute ces statistiques avec détachement, puis on se dit, ben voyons donc. Mais c'est ça qui se passe, c'est que ça crée vraiment des relations émotionnelles, un attachement, et ça fait que les gens vont finir par utiliser beaucoup l'intelligence artificielle, et tu l'avais très bien, un robot conversationnel, c'est une belle façon de le dire. Donc, ils vont utiliser plus ces applications-là, puis moins en moins de relations avec des humains. Puis là, ben rendu au travail, c'est pour ça qu'on a des employés qui se sentent seuls.
Ben oui, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces jeunes travailleurs-là qui se sentent tout seuls?
Ouais, là, ça, c'est une grande question, parce qu'on le disait d'entrée de jeu, on va pas leur dire, on va vous faire un petit cours sur comment se faire des amis, on veut pas offenser personne. Moi, je pense, Valérie, que c'est par mimétisme que les plus jeunes vont apprendre à développer ces habiletés. Il y a des gens dans les entreprises aujourd'hui, là, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui se disent, ben voyons donc, tu sais, puis qui réalisent même pas que eux ont développé une compétence qui a une valeur, qui est prisée par les organisations, parfois enviée par les autres générations. Ils réalisent pas que le fait qu'ils soient à l'aise d'entrer en relation avec des collègues puis qu'ils savent établir un lien de confiance, que c'est précieux. Puis là, je parle pas, Valérie, là, de se faire des amis, là. Je parle juste de se présenter au travail, d'initier une conversation avec quelqu'un, de parler de soi, d'être vulnérable, mais pas trop, parce qu'on reste dans un contexte professionnel, d'être intéressé à l'autre, disponible pour l'autre, de nouer un lien de confiance, développer une relation significative. C'est juste de ça que je parle. Puis il y a des gens qui nous écoutent, eux, ils font ça, là, puis ils se rendent pas compte qu'ils le font, ils se rendent pas compte que ça a de la valeur. Puis je me dis qu'avec juste un petit peu de conscience, on peut aider les plus jeunes à apprendre de ces gens-là. Des fois, c'est des stratégies comme rendre un peu grotesque, un peu manifeste certaines stratégies pour permettre à d'autres personnes de voir ce qui se passe, alors que d'habitude, on l'aurait fait un peu plus discrètement. Ou simplement de prendre le temps de réfléchir. Oui, mais je fais ça comment, moi? Parce que souvent, on va appeler ça, ce sont des experts inconscients. Ils savent plus. Donc, c'est quoi ma stratégie? Puis, au besoin, pourrais-je l'expliquer à quelqu'un qui aimerait apprendre, développer, améliorer ses compétences? Puis, c'est comme ça, je pense, que les plus jeunes, on va pouvoir les aider à surmonter cette solitude au travail.
Regardez les gens dans les yeux!
Oui, parlez à du monde, c'est ça! Oser initier des conversations, puis faire confiance. Tranquillement, ça se développe, ces relations puis ces compétences.
Annie Bollard, ça a été très intéressant, ce sujet, cette semaine, encore une fois.
Ça fait très plaisir, Valérie.
À la semaine prochaine. Bye-bye.